Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Je crois qu'il est important de resituer cette parabole dans son contexte. Cette parabole, c'est au début du c'est dans le chapitre 15 de Saint-Luc, et elle part des murmures des pharisiens, donc au début du chapitre. Et les pharisiens disent, « Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Pour nous chrétiens, il y a aussi un postulat de base qui nous anime, c'est « Dieu est la vie, Dieu est amour. » Et le Christ nous rappelle d'ailleurs de nombreuses fois dans les évangiles qu'il est la vie, ou bien le pain de vie, comme on a vu la semaine dernière. Pour lui, rien n'est plus important que la vie qu'il veut partager avec nous. Nous pouvons alors comprendre le pourquoi de cette parabole et aussi d'ailleurs de celle qui la précède dans l'Évangile. C'est la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue. À chaque fois, nous voyons que ce qui est perdu va vers la mort et le Christ n'a de cesse de partir inlassablement à leur recherche pour les retrouver. Et il nous montre aussi la joie qui se manifeste lorsque ce qui était perdu a été retrouvé. Pour le Christ, rien n'est jamais perdu définitivement. Il est toujours là pour nous rechercher et nous ramener à la vie. Alors, si nous regardons un peu les protagonistes de cette histoire, si nous regardons d'abord le fils cadet. Le fils cadet, il est perdu, mais il entre dans le repentir. Il reconnaît ce qu'il est réellement. Il a un regard juste sur lui. Il est autre chose que ce qu'il a fait. Il se voit faible et tellement humain. Ce qu'il fait n'est pas beau aux yeux des hommes, mais il sait qu'il n'est pas l'image qu'il a donnée, qu'il a une autre origine. Et il se retourne pour retrouver son maître intérieur, l'image de sa vraie personne enfouie au fond de lui. Et en se reconnaissant pécheur, il sait qu'il pourra retrouver le salut, la vie. Et c'est ce qui se passe. Sans condamnation ni jugement, le Père lui fait la fête. Et il dit d'ailleurs, car il était mort et il est revenu à la vie. Maintenant, si nous regardons le fils aîné, il est de la même famille, il a, je pense, reçu la même éducation, et a priori, il n'y a pas de raison de croire qu'il est plus mauvais ni meilleur que son frère. En tout cas, aux yeux du Christ, certainement pas. Il est humain comme son frère. Mais là où il y a la différence, c'est que lui vit dans la honte de ses fautes, de ses actes. Et il va les cacher derrière une moralité, un masque de fils parfait. Il se sait imparfait et pour lui c'est irréversible. Ce qu'il a fait ne pourra pas être sauvé. Alors il se sent coupable, pense qu'il a chuté et que c'est fini, et que ce n'est pas réparable. En se retranchant dans des règles extérieures, il va s'élever en juge pour celui qui ne respecte pas les règles. Il va s'ériger en sauveur, celui qui est le gardien de la bonne morale. Il a oublié son maître intérieur, l'image de Dieu qui est déposée au fond de lui. Et il trouve son maître dans des préceptes extérieurs que tous doivent suivre. Il ne comprend pas que la vie spirituelle, c'est la recherche de la vie avec un grand V. C'est une suite continuelle de chutes qui vont permettre à Dieu d'agir. Le Christ ne peut agir qu'envers ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui trouvent en lui leur espérance. Le fils aîné, comme les pharisiens et les scribes du début du chapitre de Luc, ne croit pas en la miséricorde, en l'amour de Dieu. Il ne croit pas que la vie, l'amour, est plus fort que la mort. Celui qui se sent coupable veut se venger sur les autres pour réduire sa culpabilité. Il se sent investi d'une mission de sauveur. Elle doit faire quelque chose pour empêcher les autres de chuter en édictant des lois, des principes moraux et sociologiques. Il va ainsi se retrancher derrière un conformisme moral. Et je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me reconnais parfois dans ce fils aîné. Et je pense que c'est un peu la même chose pour chacun d'entre nous. Le fils cadet, lui, veut retrouver l'image du Christ en lui. Il veut retrouver la vie, ce qui le fait vivre, le guide intérieur. Et on peut dire que c'est un homme d'expérience, qui a vécu le manque, qui a vu ses faiblesses, mais qui reste dans l'espérance, qui sait qu'en lui, il y a autre chose de plus important. Il y a un appel à la vie, une fin de retrouver la vie. C'est lui qui ose sortir des sentiers battus, stéréotypés, et qui accepte ses échecs, qui y trouve une occasion d'expérimenter la miséricorde divine. Cela l'ouvre à la compassion, à l'amour, car il se sait aimé. Le fils aîné, comme le pharisien, n'accepte pas de se savoir pécheur. Et il va compenser par un conformisme à des lois extérieures, une sévérité envers ceux qui ne le suivent pas, ne pensent pas comme lui. Et cela va le conduire à la perte du sens fraternel, de l'entraide. Et nous voyons où conduit cette attitude. Ça conduit vers la rigidité, vers la censure, vers la violence, la jalousie. Nous devenons de faux sauveurs qui manipulent le monde. Le démon s'installe en nous. Comme les pharisiens, nous allons rentrer dans le murmure, dans la rumeur, dans le dénigrement. Nous avons perdu notre espérance. Nous ne croyons plus en la vie. Nous sommes dans l'oubli de Dieu. Le Christ est venu pour renverser cette fausse morale que l'homme coupé de Dieu se donne. Dieu, le Christ ne juge pas. Il va à la rencontre, à la recherche de celui qui a chuté. Il ne réduit pas la personne à l'acte qu'il a commis, mais il reconnaît en lui, à travers tous les dérapages, sa propre image qui a été déposée. Nous sommes le fruit de la vie, de l'amour, et rien ne peut alors nous abattre si nous avons cette foi et cette espérance en la vie qui nous a été donnée. Le Christ voit en chacun de nous son image, malgré les poussières, malgré les débris qui la ternissent. Les pharisiens ne voient plus la poussière. Finalement, et paradoxalement, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on a perdu, ce que l'on n'a plus. C'est ce qui va nous mettre en mouvement pour le retrouver, qui va nous ramener à la vie et nous apporter la joie. Ce mouvement, c'est dire non à la mort et oui à l'espérance, qu'au-delà de la perte, de la mort, il y a la vie. Retrouver la vie qui nous a été donnée, c'est la résurrection. Ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, c'est cette espérance, cette foi en la vie. L'humanité a perdu son maître intérieur et elle est désespérée. Elle culpabilise et se retranche dans un conformisme extérieur pour se donner l'illusion de la vie. La conséquence de cette culpabilité, c'est l'orgueil. On se surestime et on juge les autres et soi-même. On les condamne et on se condamne. On détruit et on se détruit. Nous avons perdu, oublié notre origine. Nous avons oublié que nous sommes le fruit d'un désir amoureux absolu. Alors gardons toujours à l'esprit ce message d'espoir. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles.
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous.